deux choses qui seraient sinon incapables de communiquer et qui sont le jugement scientifique, qui est quand même un rapport au vrai, et le jugement moral qui, lorsqu'il est seul, ne sait faire qu'une distinction abstraite entre le bien et le mal, et est purement négatif. Donc la technique, en un sens, est dangereuse, mais on ne peut pas se permettre de la négliger, d'une part parce qu'elle est dangereuse, d'autre part parce qu'on peut en attendre beaucoup pour la culture, et là, je dirais, la culture du jugement, y compris dans une perspective morale. On a à apprendre de ce que les objets techniques ont à nous dire.
Effectivement, l'objet technique pour lui était important comme, encore une fois, comme médiateur, enfin important, indispensable, je dirais, comme médiateur pour tout ce que l'homme fait en rapport avec la nature. Et donc, à ce titre, il est très important de bien l'utiliser, de bien le concevoir, de le respecter. Enfin, tout ça va ensuite assez logiquement quand on replace l'importance de l'objet technique dans la façon de vivre de l'homme. Je crois que c'est surtout cet environnement-là pour lui. L'objet technique est une donnée essentielle de la façon dont l'homme vit dans la nature.
Mais moi, en fait, on le vit au quotidien. Tout à l'heure, Monsieur Giraud parlait du bois comme caisse de résonance pour les appareils radio. Et les masses, par exemple, les marteaux pour les grosses masses pour enfoncer les piquets en bois, les piquets de clôture. Moi, je fais beaucoup de clôture. Eh bien, ce qui va bien, c'est la masse en fer et le manche en bois. Il y a eu des essais de manches en résine ou en plastique dur. Et les vibrations que ça transmet sont très douloureuses, en fait. Et on est beaucoup moins. Enfin, on sent beaucoup moins la façon dont le piquet s'enfonce avec ce type de masse qu'avec une masse classique. Et j'en ai parlé au vendeur qui m'a dit que lui-même, bon, il le vendait parce que c'était demandé, ça pourrissait pas, mais pour bien travailler, il fallait toujours un manche en bois. Donc c'est les gens qui travaillent vraiment avec les outils savent très bien faire la différence et chercher l'optimum. Et on peut aller vers des avancées, par exemple le manche en plastique, mais on en revient quand à l'usage il est moins performant. Au contraire, c'est adopté quand c'est un progrès.
Je crois que c'est ce qu'il développe surtout dans le mode d'existence, c'est-à-dire le fait que ce qui relève de la technique ne doit pas être l'objet de décisions, de prises par des décideurs qui n'y comprennent rien. L'objet technique n'est pas compris par celui qui l'utilise tous les jours en étant asservi à une tâche très limitée. Il n'est pas non plus compris par celui qui le possède, je dirais par exemple le patron, mais il n'est pas non plus compris par un pur politique, si je puis dire, puisque le pur politique, il est baigné d'une culture qui va chercher ces modèles techniques pratiquement dans l'Antiquité, c'est ce qu'il signale dès l'introduction du mode d'existence. Il y a un décalage entre la technique qui est actuelle, c'est-à-dire la technique que les gens vivent dans leur travail. Donc, parce que le travail, souvent, c'est un travail avec des objets techniques. Donc, il y a un grand décalage entre l'actualité du vécu des sociétés et puis les schèmes de pensée qui sont souvent utilisés dans le discours politique. Donc, le politique n'est pas capable de penser correctement la société parce qu'il n'a pas une connaissance et une compréhension du véritable vécu, pour dire les choses ainsi, c'est-à-dire du rapport à une technique qui ne peut être compris que par une véritable culture technique. L'une des solutions explicites dans le mode d'existence, c'est vraiment de compléter la culture avec ce qui lui manque, c'est-à-dire justement non pas une connaissance technique limitée, mais une véritable culture technique, c'est-à-dire la compréhension non seulement de ce que c'est qu'un objet technique, suivant ses différents modes d'existence, que ce soit l'élément, l'individu ou l'ensemble, mais aussi bien le sens de la technicité parmi les autres formes de rapport au monde. Donc ça, c'est la solution, c'est une solution culturelle à long terme, etc. Alors à long terme, ça c'est plus compliqué parce que c'est difficile à dire, parce qu'en même temps une telle culture technique qui est en même temps une culture du jugement technique, ça conduit à peut-être refuser une certaine façon de faire de la politique. Une façon de faire de la politique qui, par exemple, se bornerait à distinguer droite et gauche. Se bornerait à distinguer entre la catégorie d'amis et la catégorie d'ennemis. Ça s'est rendu absolument impossible par sa façon de voir les choses. C'est ce qu'il appelle justement la pensée transductive et qui interdit tout à fait ces oppositions binaires ou ces classements dans différents genres, par exemple dans différentes classes. Je crois qu'il y a une leçon immédiate pour la politique dans ces textes. Avec ce recours à cet appel en tout cas à une pensée transductive.
L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement. Elle ne recouvre qu'ignorance ou ressentiment. Elle masque derrière un facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles et qui constitue le monde des objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme. La culture se conduit envers l'objet technique comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive. Le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant haine du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet étranger est encore humain, et la culture complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. De même, la machine est l'étrangère. C'est l'étrangère en laquelle est enfermé de l'humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l'humain. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde et des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture.
Thank you.
ce qui est sûr, c'est que pour penser l'homme aujourd'hui et l'homme dans le monde, il faut le penser à partir de l'ensemble de la culture, c'est-à-dire de l'ensemble des rapports au monde. Mais il y a une pluralité de rapports au monde. Si on veut comprendre le sens de la technicité, comme il le montre à la fin du mode d'existence, il faut comprendre la technicité par rapport, par exemple, à la pensée religieuse, par rapport à l'art, à l'esthétique, enfin à la pensée esthétique, par rapport aussi aux oppositions théorie et pratique, par rapport à la science, bien sûr. Donc, il était sensible au fait que la culture n'a vraiment de valeur pour l'homme, une valeur régulatrice en particulier, c'est le terme qu'il emploie, que lorsqu'elle arrive à être complète, c'est-à-dire lorsqu'elle n'abandonne pas une part importante qui ne serait pas reconnue digne d'entrer dans la culture. C'est le sens de sa défense de la technique, c'est qu'il l'a considérée comme étant méprisée par la culture. Aussi bien l'objet d'art est reconnu par la culture, l'œuvre littéraire, les travaux scientifiques, tout cela est reconnu par la culture, mais l'objet technique, non. L'objet technique n'existe que parce qu'on peut l'utiliser, c'est bien pratique, c'est l'usage. Ça a vraiment été un motif pour lui de travail sur la technique pour montrer que l'objet technique méritait d'entrer dans la culture exactement au même titre que les autres.
La radio comme objet technique, donc qui serait une interface entre la nature et l'homme, j'essaie de alors, bien comprendre.
Oui.
En prenant l'exemple du récepteur radio, par exemple.
Oui, alors là, je ne sais pas. Bon, l'interface, peut-être, à ce stade, n'est pas évidente, mais je crois que le côté intéressant pour lui de la radio, c'était la mise en réseau. Et alors après, la nature là-dedans intervient un peu comme un support, mais un support géographique, c'est-à-dire que, et c'est un peu le rôle de l'émetteur du pilar, c'est le fait de savoir utiliser des propriétés particulières du terrain, donc de la nature si vous voulez, pour communiquer. Donc la radio quand même pour lui était un moyen de communication, et un moyen de communication permettant de mettre l'ensemble des gens en réseau, et avec des points relais, qui était particulier au sens de la nature, c'est-à-dire que des points à qui la nature avait donné une importance particulière dans leur pouvoir d'arroser le reste du territoire avec un signal. Donc là-dessus, l'interface, c'est vrai, est un peu léger, mais c'est pas négligeable tout de même.
Mais c'est-à-dire, c'est aussi au niveau de l'outil au sens classique comme un marteau, mais plutôt des ensembles techniques, puisqu'il y a un ensemble au sein de la radio, il y a les lampes, il y a le transformateur, le haut-parleur, et c'est quand même un médiateur dans le sens où ça permet de communiquer.
Alors, sur ce poste à Galen, on n'échangeait pas beaucoup, mais il me faisait écouter. Donc, je me souviens, quand on était à Tours, il en avait un autre. Donc, ça, c'était en vacances, mais quand on était à Tours, il en avait un autre. Et on écoutait, à l'époque, Radio Alger, puisque c'était la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie. Et on captait des radios qu'on n'entendait pas, hein, sur les ondes. Et je me souviens très bien, à une époque, il y avait le putsch des généraux. En Algérie, donc ça remonte à c'est vieux, hein. et j'avais écouté les généraux qui appelaient à la révolte. Enfin, c'était intéressant parce que ça signifie pas grand chose pour moi politiquement, bien sûr, je n'étais pas capable d'analyser ça, mais je me rendais compte que j'entendais
sur la radio.
Chose
ça me donne l'occasion de dire que n'était pas mon père n'était pas seulement intéressé par la technique de l'appareil de radio et de la capacité à transmettre l'information, mais aussi utiliser la radio comme pour l'écouter tout simplement sur des émissions particulières. Et je me rappelle les périodes où il écoutait Radio Pékin, au moment de la révolution culturelle, et où il y avait toute une série de sujets d'inspiration, alors non pas d'ordre politique sur l'organisation de la société certainement, mais sur des thèmes de la révolution culturelle, sur la capacité à dépasser ce que l'on peut faire habituellement par des efforts et une organisation particulière. C'était peut-être très optimiste à l'époque, mais vu ce qui s'est passé après. Mais ceci dit, c'était un thème d'intérêt très fort. Et je me rappelle avoir souvent entendu le récit à la maison de la traversée du fleuve Yangtze par Mao Tse-tung, je crois que c'était en 66 ou dans ces années-là, qui était un événement majeur là-bas, mais aussi à la maison. On en parlait assez fréquemment. Et donc je le voyais utiliser sur un appareil de radio en ondes courtes, écouter Radio Pékin, ce qui n'était pas très habituel, quoi. Et ça n'était pas, alors de loin, pas par conviction politique et pour une vue de la société, c'était par... au contraire, une vue large, quoi, d'une culture très différente qui pouvait être apportée directement par la radio.
Moi, je me souviens de ce qu'il me faisait écouter. Et puis, je me souviens surtout de quand il fabriquait donc, les boutons. Il y avait des espèces de boutons un peu bizarres. Là, mais je vous dis, j'ai du mal à rassembler des souvenirs précis. Mais il y avait le plaisir du montage. Il y avait ces grandes antennes avec plein de fils. Alors, c'était très grand et puis c'était très haut. Et il y avait des boutons avec des formes assez étranges. Et ça, on en a gardé très longtemps à la maison après. Et puis, bon, on n'a pas pu tout garder. Mais pour moi, c'était des jeux, si vous voulez. Tout ça, c'était des jeux, c'était rigolo, ça faisait des tas de bruits bizarres. Et... c'était des jeux parce que c'était pas interdit. On avait le droit, hein. On avait le droit de s'intéresser à ça, on avait le droit d'écouter comme les grands. Hein. On était là et on assistait, on participait à tout. Et on trouvait ça complètement normal.
On peut considérer que les outils avaient une fonction et puis qu'ils étaient... ils avaient une raison d'être, et donc on pouvait par exemple difficilement imiter des outils simplement pour jouer. Autrement dit, pour vous donner un exemple simple, pour lui, un petit marteau d'enfant en plastique ou en bois n'est pas un marteau, parce qu'avec ça, il n'est pas conçu pour enfoncer une pointe, il ne peut pas marcher parce qu'il n'a pas la masse au bon endroit, ni la longueur de levier correcte, etc. Et donc dans son esprit, ce n'était pas une bonne chose que d'offrir un marteau en jouet à un enfant. Et par conséquent, quand il avait envie de nous montrer à la fois qu'il était content de notre comportement et puis aussi qu'il nous faisait confiance, eh bien, il nous offrait par exemple un marteau, mais un vrai. C'était par exemple 4 ans, 5 ans, enfin à un âge où beaucoup de gens auraient trouvé normal d'offrir un jouet. Et lui résistait à cette idée d'offrir un jouet parce que le jouet en question n'était pas fonctionnel. Et finalement, ce que ça veut dire pour nous, c'est que nous avions conscience du fait qu'il nous faisait confiance finalement pour utiliser l'outil en question parce qu'il nous avait expliqué pourquoi et comment l'objet était conçu. Alors évidemment, oui, en face de ça, tu as raison François, il y avait une petite prise de risque. Un enfant de 4 ou 5 ans pouvait se taper sur les doigts avec un marteau et après tout, voilà, c'était le risque à courir pour comprendre la fonctionnalité de l'outil. Et alors, ça nous est un peu resté quand nous plaisantons et que nous disons, bah, écoute, tu veux bien travailler, etc., je vais t'offrir un petit marteau.
Voilà, moi, j'ai offert à ma dernière fille, Viveka, un petit marteau, où elle n'avait même pas 4 ans, mais elle s'en sert très très bien. Et ce qu'il faut, c'est bien... il y a une question de bras de levier, mais autrement, ouais. Les enfants sont très vite... À droite, là, elle s'amuse à casser des noix avec le marteau. Mmh. Elle est très très efficace.
C'est juste une illustration de sa façon, de ce que j'appelle respecter en quelque sorte un objet technique. Un objet a une fonctionnalité, il a une histoire, il a une utilité, et il faut qu'il la conserve même quand il est légèrement sorti de son contexte. En fait.
Ce que j'ai comme souvenir, c'est d'avoir réalisé avec lui des choses qu'aujourd'hui je ferai sans doute pas avec mes enfants, enfin peut-être certaines, ou même ou les petits-enfants, mais des choses qui effectivement n'étaient pas si risquées, mais qui pouvait l'apparaître. Mais c'était pour comprendre, encore une fois, comprendre certaines lois physiques, comprendre une anecdote, faire geler une flaque avec une bouteille de butane, par exemple. La bouteille de butane jouait un grand rôle dans la vie courante, et plusieurs fois, mon père prenait, même en été, une bouteille de butane, et puis il disait, tiens, viens voir, on était en général plusieurs enfants, et déboucher la bouteille de butane, ce qu'on fait pas trop avec les gamins, quoi. Hein. C'est pour ça que c'est sûrement un risque mesuré, sans aucun doute, mais il n'y a sans doute pas de risque particulier. Et la bouteille de butane, le butane projeté sur la flaque, le fait geler, et c'est comme ça qu'on comprend mieux les lois de la thermodynamique. Dans la vie courante, disons, nous faisions des choses un peu inhabituelles, ouais, pour des enfants.
J'avais le souvenir, moi, de vivre une vie d'enfant à peu près entièrement libre, à condition toutefois d'avoir à l'égard des choses un rapport respectueux, à l'égard des hommes, à l'égard des choses, un rapport respectueux. Ils nous encourageaient à la découverte, à la prise de responsabilité, à une sorte de maturité progressive. Je crois qu'on peut dire qu'on avait à peu près le droit de tout faire, aussi bien dans les jeux, dans les bricolages qu'ils nous conduisaient à faire, bien sûr. Ils nous apprenaient absolument tout. Et on était encouragés à faire comme ça, toute une série de choses très autonomes, voilà, de façon autonome. Il encourageait aussi une certaine forme de risque, de prise de risque. Pas un risque, bien sûr, il nous apprenait les règles de la prudence. On savait brancher une prise de courant, on savait se servir d'un outil. Mais en revanche, c'est ce qu'il appelle le risque noble, hein, c'est-à-dire, et pas le risque stupide, hein, c'est-à-dire une sorte d'esprit d'aventure, de recherche, dans les activités, en tout cas.
J'ai affirmé que la machine n'est ni un esclave, ni un instrument utilitaire valable seulement par ses résultats. J'ai enseigné le respect de cet être qu'est la machine, intermédiaire substantiel entre la nature et l'homme. J'ai appris à la traiter non comme un serviteur, mais comme un enfant. J'ai défini sa dignité et exigé le respect désintéressé envers son existence imparfaite. Le geste a été appris comme un rite noble. Les machines étaient deux tours à bois et à fer, deux perceuses, une forge, sept moteurs thermiques et électriques, un récepteur de téléphonie hertzienne, un émetteur et un récepteur de radar, un convertisseur, un oscilloscope cathodique. Les élèves étaient âgés de 12 à 14 ans. Le plus grave obstacle rencontré chez les jeunes surtout est la tendance au jeu qui privilégie la relation de mise en œuvre avec la machine, faisant de celle-ci un instrument de jeu et affaiblissant la tendance à la construction et la tendance à la contemplation. Par contre, plusieurs élèves ont profondément compris et pratiqué cette prise de conscience de l'être technique, saisissant dans la machine l'histoire humaine déposée et y ressentant la présence du monde. Je pense n'être tombé ni dans l'amusement ni dans la leçon de choses déguisées et avoir donné à mes élèves une culture technique vraie, dans un esprit attentif et sérieux. Le sens de cet effort n'a pas été un apprentissage, même pas un apprentissage varié et, si je puis dire, polyphonique. Dans l'apprentissage, même quand il est très parfait, il subsiste quelque chose de l'aliénation de l'homme devant la matière ou devant la société. L'apprenti est un être mineur qui accepte d'être initié, de se soumettre au statut de la coutume, de la corporation et de la tradition. L'apprenti est un homme qui ne devient majeur qu'à travers l'imitation qui lui est imposée. L'origine de sa propre formation réside en dehors de lui. Quelle que soit la dignité de l'artisan qui a commencé par être un apprenti, il subsiste peut-être en lui quelque chose de l'état d'apprentissage, sous la forme subconsciente du respect de la structure ancestrale dans le geste opératoire.
Thank you.
mais je percevais pas le respect de l'objet technique comme, comme philosophique. C'était, ça m'apparaissait beaucoup plus comme un aspect pratique, mais permanent, oui, qui consistait, on conservait les objets, on les recyclait, on les réparait de façon très fréquente, banale. Alors, du point de vue de son approche écologique, c'est lui qui m'a appris ce terme, bien avant René Dumont et l'écologie que l'on connaît aujourd'hui. Du point de vue de son approche écologique, c'était essentiellement la préservation de la ressource. C'est clair que son idée était que le monde avait une dimension finie, qu'il fallait préserver, qu'on ne pourrait pas utiliser la ressource. Donc, c'est vrai pour les objets, c'est vrai pour les matériaux, pour les animaux, les plantes et ce que l'on veut. Au-delà de la préservation de la ressource, je pense qu'il y avait une question, c'est peut-être là, est-ce qu'elle est présente dans l'objet technique ou non, on pourrait en débattre, mais qui peut-être fait différer les êtres vivants de l'objet technique, ou alors on assimilait à une vie le fait de ne pas détruire, quoi. De ne pas détruire la vie, de ne pas détruire l'objet technique, et de concevoir des objets techniques jusqu'à qui puissent... qui ne soit pas rapidement obsolescent et qui puisse durer longtemps, voire être recyclé pour une nouvelle vie. Ce qui était très fréquent dans la vie courante, de réparer, refaire une vie de différents objets. Je me rappelle même le jour où il m'avait expliqué la différence entre écologie et éthologie, qu'il ne fallait pas confondre, pas tout assimiler, et qu'il fallait savoir de quoi on parlait. J'insiste sur le fait que développer... un point de vue écologique qui était la préservation de la ressource. Enfin, je me rappelle bien qu'à l'époque, on ne se gênait pas pour balancer des papiers partout et que ce n'était pas un sujet ni pour lui ni pour d'autres, mais que la préservation de la ressource, le fait que le monde ne pourrait pas consommer de cette façon-là, casser ce qu'il utilisait, c'était très présent et très tôt. Je devais avoir aussi une douzaine d'années, hein. C'était à cette époque-là, dans les années 65. Hein.
Jamais on accusait un animal d'être méchant quand il faisait quelque chose. Si vous voulez, il n'y avait pas cette, ce qu'on inculquait autrefois aux enfants. Hein. De même que mon père était très précis dans les mots, comme pour les termes techniques, comme pour les outils. Un outil, un marteau, c'est un marteau, un tournevis, c'est un tournevis, et une pointe, c'est une pointe, un clou, c'est un clou, c'est pas la même chose.
Bon. Oui, on parle de la lampe électronique.
Oh, voilà. Donc, c'est très important d'employer les bons mots. De même, à l'époque, les instituteurs nous enseignaient que la pie était la femelle du corbeau. Bon. Ce qui est complètement faux, mais oui, oui, complètement faux, je vous rassure. La corneille n'est pas la femelle du corbeau non plus. Bon. Et mon père était très précis sur les termes. Hein, c'est-à-dire que. Il nous expliquait qu'il y avait le mâle et la femelle. Cet animal, c'était celui-là. Il nous apprenait à reconnaître les animaux. Donc, et les vipères et les couleuvres, quand on en voyait, oui, il expliquait comment était la vipère avec la tête et puis comment était la couleuvre. Et... Déjà, il avait cette espèce de besoin de désigner les choses par leur nom, précisément, de ne pas confondre. Et ça nous est... Oui, c'est vrai que ça a été très important dans l'éducation. Il n'a jamais été indifférent aux animaux. C'était aussi les animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on était à la campagne, donc en Haute-Loire, et on jouait partout et on trouvait beaucoup d'orvées, par exemple. Donc les orvées, c'est pas dangereux. Ça ressemble aux serpents. Et ce ne sont pas des serpents. Mais on avait aussi des vipères, des couleuvres. À l'époque, c'était des animaux. On payait encore une prime quand on emmenait un serpent tué à la gendarmerie. Oui, parce qu'il y avait des gens qui... Mais il y a des gens qui gagnaient de l'argent comme ça. Et ils tuaient les serpents parce que de toute façon, ils ne faisaient pas la différence entre une couleuvre et un serpent. C'était un serpent, donc c'était mauvais, donc on tuait. Nous, ça ne nous serait jamais venu à l'esprit de tuer une couleuvre ou une vipère. Et nous étions très à l'aise avec ça. Je sais qu'on allait, à Fontainebleau avec mes frères quand on était à Paris, puis ramasser des vipères. À Fontainebleau, il y en avait beaucoup, on les ramenait à la maison, on les mettait dans un aquarium, enfin un terrarium, on les gardait quelques temps, puis après on les ramenait, on les lâchait.
Et comment on fait pour ramasser les vipères?
Alors, on prend un petit bâton, et puis enfin, il y a une petite technique pour ne pas se faire piquer. Et puis on coince avec un bâton, puis on les attrape comme ça, on prenait des gants. Et oui, oui. Et je me souviens, on faisait ça pas souvent hein, pour s'amuser, mais même dans le jardin, il y avait des vipères. Et on fait toujours la même chose. Moi, j'ai des vipères. Enfin, si je trouve une vipère dans le jardin, je la laisse tranquille. Si je trouve une couleuvre, je la laisse tranquille aussi. Et on en a à la campagne. Bon, les vipères sont là. Il y en a de toute façon dans le jardin. Il n'y en a pas énormément. Mais si vous voulez, on a l'habitude de respecter tous les animaux. Et ce qui a évolué, ce n'est pas l'attitude de mon père, c'est l'attitude des autres. C'est-à-dire que maintenant, c'est extrêmement courant de dire qu'avec la protection de la nature, ben, tous ces animaux sont utiles.
Alors, ce qui est refusé d'une façon générale, et ça se voyait très bien dans la vie quotidienne, c'était les jugements partiels. Par exemple, il y a une chose qui... Enfin, c'est un exemple, hein, mais quelqu'un qui aurait traité un enfant, par exemple, d'enfant mauvais, comme ça se faisait parfois à l'époque, c'était pour lui non seulement une bêtise, mais c'était quasiment un crime contre le jugement lui-même, aussi bien qu'un crime contre l'enfant qu'on traitait comme ça, parce que c'était évidemment une façon de réduire un enfant à la petite bêtise qu'il venait de commettre, une façon de lui boucher son développement possible, harmonieux, etc. Donc tout ce qui pouvait être jugement réducteur, jugement dépréciatif, surtout à l'endroit des enfants, ça le mettait... vraiment dans un état d'indignation très, très, très prononcé.
Il est arrivé une fois, là, pour illustrer les relations d'enfants, et peut-être comment mon père voyait l'éducation. Enfin, ça ne vous indiquera pas toute sa vision de l'éducation des enfants, mais une anecdote peut-être un peu rigolote. Un jour, j'avais été, quand nous habitions... à Tours, une maison très en hauteur avec des étages et un escalier étroit. J'avais été très contrarié par le fait qu'il avait fallu renoncer à un projet, à un voyage. J'étais vraiment très en colère contre mes parents. J'avais, je crois, 6 ou 7 ans par là. Et j'avais pris un stylo et j'avais écrit en lettres d'imprimerie assez grosses, en majuscules, « Merde ». Au moins 2 étages, si je me rappelle bien, de la maison. Et puis voilà. Et bien sûr, je me suis fait largement réprimander, en particulier par ma mère. Mais surtout, l'intérêt de l'anecdote, c'est que mon père n'a pas voulu qu'on efface ce merveilleux et ces merveilleux merdes qui avaient été écrits dans l'escalier. Alors ça a fini par être effacé quand même. Mais la première question, c'était non, ça veut dire quelque chose, il ne faut pas l'effacer. Je crois pas qu'il était content quand même. Hein. Il m'a pas réprimandé, mais enfin, je me souviens surtout, ma mère était pas trop d'accord, qu'il voulait laisser cette œuvre dans l'escalier.
Oui, je vous ai dit qu'il respectait tout, parce qu'on parlait du respect de la nature, mais je veux dire qu'il respectait tout, au sens qu'il respectait les animaux, il respectait les objets. Il respectait tout ce qui était pas forcément respecté par les autres. Je parle pas des gens là, hein. Nous parlons hors personne humaine. Hein. Il respectait dans l'univers qui l'entourait à peu près tout ce qui existait, c'est-à-dire les végétaux, les animaux et les objets. Et je sais pas exactement d'où venait ce respect. Mais rien n'était, si vous voulez, digne d'être abîmé ou d'être coupé quand c'était un végétal, d'être maltraité ou tué quand c'était un animal. Donc c'était un respect global pour tout ce qui était vivant ou pas vivant, puisque les objets n'étaient pas vivants, mais qui existait, qui avait un sens particulier. Et c'est vrai que c'était assez frappant de voir qu'il fallait utiliser un outil pas n'importe comment, qu'il fallait lui donner son nom, qu'il fallait l'utiliser pour l'usage auquel il était destiné, ne pas le détourner de son usage, parce que sinon on pouvait à la rigueur, mais c'était l'abîmer, c'était faire du mauvais travail. Et puis pour les animaux et pour les végétaux, c'est vrai qu'il ne coupait pas les arbres, il n'aimait pas qu'on taille les arbres, il n'aimait pas qu'on enlève des arbres qui avaient poussé tout seuls, et qu'il aimait particulièrement, je pense, aux sureaux. Mais mon frère me rappelait ce matin les bouleaux aussi, qui à l'époque étaient des arbres... Si vous voulez, à l'époque où j'étais enfant, il n'y avait pas cette vague qui existe actuellement de respect de la nature, où on privilégie les essences qui sont autochtones, donc on n'implante pas n'importe quelle espèce de pin ou de sapin dans un pays parce qu'on sait que c'est pas une bonne chose. Et à l'époque, il y avait en gros dans les végétaux ce qui rapportait. Ce qui rapportait de l'argent, c'est-à-dire on faisait du bois et après on coupait le bois pour le vendre. Et puis les essences nobles qu'on mettait, ou les fruitiers, parce que ça faisait des fruits. Et puis les arbres d'ornement, qui étaient des jolis arbres, parce qu'on trouvait ça joli. Mais certains arbres communs, j'allais dire, qui maintenant sont valorisés pour d'autres raisons, n'étaient pas du tout pris en compte à l'époque. Et mon père aimait particulièrement les sureaux et les bouleaux. Parce que les sureaux, c'était des arbres de terrain vague, vous voyez, qui poussaient tout seuls. Et puis les sureaux, les gens trouvaient ça sans aucun intérêt. Alors maintenant, on fait de la confiture de sureaux, on trouve ça très bien, les fruits, ça a beaucoup de vitamine C, enfin bon. Mais la mode a changé, si vous voulez. Ou plus exactement, il y a une mode qui est venue et qui, à l'époque, n'existait pas.
La base, c'était pour bien se servir d'un objet, où il fallait comprendre comment ça fonctionnait. Et ça, il nous invitait vraiment de façon très structurée à comprendre comment fonctionnaient les choses.
Sa façon de décrire les outils, les techniques, tout ce qui est un petit peu historique, hein, toute l'étude sur l'agriculture ancienne, enfin tous les passages où il parle de la charrue, puis après bon, il parle des charpentiers, l'encyclopédie aussi. Hein, il nous montrait les planches de l'encyclopédie, il nous montrait comment étaient les outils, et c'était très beau, parce que les planches, il y avait aussi un côté artistique. Hein.
L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement. Elle ne recouvre qu'ignorance ou ressentiment. Elle masque derrière un facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles et qui constitue le monde des objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme. La culture se conduit envers l'objet technique comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive. Le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant haine du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet étranger est encore humain, et la culture complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. De même, la machine est l'étrangère. C'est l'étrangère en laquelle est enfermé de l'humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l'humain. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture.
Et je retrouve beaucoup, puis alors on tape des textes pour les éditions, donc nous partageons le travail de saisie. Donc non seulement on les lit, mais on lit les brouillons, si vous voulez, pour les taper. Donc c'est plus profond comme travail d'analyse, hein, puisqu'il y a des mots qui ne sont pas forcément faciles à déchiffrer, il faut rechercher des références, il faut vérifier des auteurs. Donc bon, c'est un travail un petit peu ardu parfois. Et là, oui, je retrouve des explications que j'entendais quand j'étais petite ou des choses dont ils nous parlaient à table. Oui, je retrouve des souvenirs, là, très, très précisément, oui.
Lui comme personne, c'est une chose. Mais cette relation entre la théorie et la pratique, entre science et lettres, etc., qui étonne tout le monde aujourd'hui, était quand même... novatrice, hein. c'était peut-être trop tôt, quoi. Et sa reconnaissance, elle est liée à l'évolution, j'aurais tendance à dire, des autres.
Ben la méconnaissance de l'autre est l'une des racines de la haine, hein. Donc c'est vraiment comme la haine de l'étranger qui n'est pas à ses yeux quelque chose d'inhumain, peut-on dire, c'est quelque chose de profondément humain, c'est lié à la perception, au fait que la perception de ce qui n'est pas familier peut provoquer de la crainte, mais c'est justement ce qu'il faut comprendre et c'est ce que la culture permet de comprendre et de dépasser.
Vous avez été, vous êtes, vous fûtes à l'écoute de l'air du diable. À CKUT 90,3 Montréal, CKUT.ca.
directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Listen. You smell something?
I'd call that a big yes.
I feel so funky.
Bankman, get a sample of this. This is hot, Ray.
I'm very excited. I'm very pleased. I want you to get right down there.
Yeah, I smell something. I smell a Thursday night at 1:01 in the morning on CKUT. Let's get it started. Yeah. Spark 'em if you got 'em.